Le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour.
Les cinémas, mais aussi les centres de vacances, les salles de jeux, les casinos vont pouvoir rouvrir dès lundi. Le gouvernement annonce de nouveaux assouplissements dans le déconfinement. Pour les sports collectifs également, qui vont pouvoir reprendre. Le point dans un instant avec Fabrice Abgral. Rien de nouveau en revanche pour les discothèques qui devront attendre au mieux le mois de septembre. Les professionnels des métiers de la nuit se disent abasourdis. Lever les doutes sur l'impartialité de la justice. Emmanuel Macron a saisi le Conseil supérieur de la magistrature sur l'affaire Fillon, à lui de déterminer s'il y a eu pression de l'exécutif ou pas en 2017 pour enquêter sur le candidat LR à la présidentielle. Dans ce journal également, le retour en mer d'SOS Méditerranée après 3 mois à quai. Le bateau de l'association, l'Ocean Viking, reprend ses opérations de sauvetage des migrants. Invitée de ce journal, sa directrice, Sophie Beau, très inquiète de la situation. En Inde, une quarantaine obligatoire désormais pour les habitants de New Delhi testés positifs. Et puis avant la fête de la musique demain, aujourd'hui le Disquaire Day pour tous les passionnés de vinyle. Enfin la météo, du beau temps sur les régions méridionales, des risques d'ondes orageuses dans le Grand Est.
France Inter.
Un pas de plus dans le déconfinement, c'était déjà prévu pour les cinémas qui vont rouvrir après-demain lundi, mais avec eux les centres de vacances, les casinos, les salles de jeux vont également pouvoir reprendre leurs activités. Le Conseil de défense et de sécurité nationale réuni dans la soirée d'hier a par ailleurs autorisé la reprise des sports collectifs, Fabrice Abgral, dans le respect bien sûr des consignes sanitaires.
C'est vrai, le gouvernement a autorisé la reprise des activités de sport collectif, professionnel et amateur. Et tout ça à partir de lundi, avec, précise le communiqué, des mesures de prévention adaptées. Ça concerne évidemment le football, le rugby, le basketball et le handball notamment. Les sports de combat et de contact sont également autorisés, mais pour les seuls professionnels. Tous les sportifs de haut niveau vont donc pouvoir retourner à l'entraînement. En revanche, tous ces sports de combat comme la boxe ou le judo sont encore interdits pour ceux qui les pratiquent en loisir ou en amateur.
Alors, vous parliez des sports de combat. Restez avec nous, Fabrice Abgral. Le ministère des Sports a précisé que les professionnels pouvaient reprendre l'entraînement après avoir été dépistés et mis à l'isolement si besoin, pas les amateurs. La ministre Roxana Maracineanu avec Soazic Bourg sur France Info ce matin.
Aujourd'hui, la seule restriction reste pour les sports de combat amateurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des tests qui sont possibles, mais ils sont chers et ils ne sont pas accessibles pour le moment sans prescription médicale. Et la prescription médicale n'est envisageable que si la personne a des symptômes.
Quand est-ce qu'on peut envisager un retour à la normale pour les clubs de sports de combat amateurs en septembre ?
Oui, il y a une échéance. Il y a maintenant 2 autres étapes de prévues à la mi-juillet et puis derrière au mois d'août et bien sûr en septembre. Donc il faut voir l'évolution de la courbe épidémique en France. Aujourd'hui, les sports de combat amateurs sont utilisés principalement dans les salles de fitness. Et ces salles de fitness ont pu réouvrir. Elles sont aujourd'hui en capacité de proposer des protocoles sanitaires qui sont rassurants pour les usagers. Et cette nouvelle mesure va permettre aussi de reprendre toutes ces activités de fitness, de combat en salle, de manière individuelle et progressivement peut-être en duo ou en combat classique.
Voilà, pour les sports de combat, Fabrice, mais d'autres assouplissements sont encore à venir. Le 11 juillet, la date de la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
Oui, les stades et les hippodromes seront réouverts au public avec une jauge maximale de 5000 personnes en d'autres termes. Et pour l'instant, les finales de la Coupe de France de football et de la Coupe de la Ligue se dérouleront fin juillet, début août au Stade de France devant 5000 personnes dans un stade pouvant en contenir 80 000. Mais ça peut encore évoluer car la situation sera réévaluée à la mi-juillet pour augmenter éventuellement cette jauge dans tous les stades. En attendant, pour toutes les personnes présentes dans une enceinte, il faudra respecter toutes les règles sanitaires en vigueur, distanciation et port du masque. Alors à partir de septembre, les choses peuvent encore changer. En effet, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, des mesures d'assouplissement pourraient être envisagées. Ainsi, dans les stades, la jauge maximale pourrait encore augmenter. C'est pour cette raison d'ailleurs que la Ligue de football professionnel, par exemple, a déjà fait part au gouvernement de son souhait d'organiser la reprise des championnats cet été avec un maximum de spectateurs dans les stades. La LFP défend 2 scénarios, l'un prônant un remplissage total des tribunes et l'autre envisageant un remplissage à 30-40%.
Fabrice Abgral, le Premier ministre, explique dans un communiqué que l'amélioration de la situation sanitaire permet effectivement de lever certaines interdictions, mais à condition que chacun maintienne une posture vigilante et a fortiori pendant la période estivale qui vient. Parmi les autres décisions de ce Conseil de défense, les croisières fluviales qui pourront reprendre le 11 juillet. Et puis à partir de septembre, selon l'évolution de la situation, les foires, expositions et les salons qui pourront être de nouveau autorisés. Peut-être aussi les croisières maritimes internationales et les discothèques. Et là, c'est pas du tout ce que les professionnels des métiers de la nuit attendaient. Leur représentant Thierry Fontaine se dit extrêmement désappointé.
Ce matin, on n'est pas déçus. La profession, elle se réveille avec la gueule de bois. On s'attendait absolument pas à ça. Depuis quelques semaines, on voit l'illogisme de ce déconfinement. Ça avait bien commencé. Ça part dans tous les sens. Et là, vraiment, on est atterré. Alors, on sait que c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a retourné la situation en hurlant dans tous les sens que les discothèques étaient à l'origine des infections. Moi, quand je vois des gens qui ont 75 ans en moyenne, qui sont infectés, qui décèdent, je suis désolé, mais je peux pas me retrouver là-dedans. Les discothèques, ce sont des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Comment est-ce qu'on peut avancer telle chose? Ce ministère est trop gros pour Olivier Véran. C'est une telle pression, c'est bien trop fort pour lui. Et on pense vraiment aujourd'hui qu'il doit laisser ce poste à quelqu'un de bien plus expérimenté et bien plus capable de gérer ce genre de situation.
Voilà, le président de la branche nuit de l'UMI, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. Alors en attendant septembre, c'est un été en bleu, blanc, rouge que vont passer la plupart des vacanciers français. C'est d'ailleurs ce que leur demande encore ce matin dans Le Parisien le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, pour des raisons sanitaires et économique, puisque choisir l'Hexagone ou l'Outre-mer, bien sûr, c'est également aider la filière durement éprouvée par la crise. Alors reste à choisir l'endroit qui nous intéresse. C'est peut-être aussi l'occasion de découvrir des régions, des paysages auxquels on n'est pas habitué. Et la concurrence est rude. On aura remarqué dans nos villes, dans les transports en commun, toutes les publicités qui nous vantent un département, une ville, parfois des lieux improbables s'agissant d'y passer des vacances, comme cette affiche sur Vierzon. Eh bien oui, quoi, n'en déplaise à Jacques Brel, pourquoi pas Vierzon? La directrice de l'office de tourisme, Isabelle Lagautrière, elle est avec Cécilia Arbona.
Là, l'idée, c'était vraiment de dire, mais arrêtez-vous chez nous. Prendre cette image que l'on a, parfois assez dévalorisante, justement à contre-pied. Cette image négative que Brel nous a amenée, un peu plouque parfois, parce que des gens considèrent aussi le Berry encore comme une région un peu appauvrie, alors que pas du tout. On est quand même aux portes de la Sologne, on a le canal de Berry, on peut faire de la randonnée, du vélo, on a énormément d'espaces naturels préservés. C'est une destination à faible coût. Clairement, on est loin du tourisme de masse. On a deux slogans différents. Il y a le slogan de l'air, qui là correspond à la campagne sur le métro et dans le RER. Et on a fait aussi une campagne assez humoristique, finalement, dans les parkings du centre de Paris, en disant « Venez plutôt vous garer chez nous, parce qu'on est à côté de chez vous. Vierzon est à 1h30 de Paris. Il y a des allers-retours quotidiens par le train. Et certainement, cette destination, vous la connaissez pas et elle mérite d'être découverte. »
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Ambre.
Voilà, on attend. On pouvait pas y échapper. On attend maintenant les pubs sur Vesoul. En tout cas, pour cette campagne promotionnelle, Vierzon a cassé sa tirelire en déboursant 35 000 euros. C'est du jamais vu dans le département du Cher.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decan.
Au Conseil supérieur de la magistrature de trancher dans la nouvelle affaire Fillon, affaire dans l'affaire. Le chef de l'État a donc décidé de saisir l'organe suprême des institutions de justice pour vérifier que l'enquête portant sur le candidat LR à la présidentielle en 2017 avait été menée en toute sérénité. Décision qui fait suite aux déclarations d'Éliane Houlette, ancienne procureure en chef du parquet national financier, selon laquelle le parquet général, son autorité de tutelle, se serait montré particulièrement pressant pour Emmanuel Macron face à l'émoi suscité par cette affaire. Il faut lever le doute et c'est d'ailleurs Karine Bécart son intérêt de le faire.
Oui, vous avez raison. Vous savez, en saisissant le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, le président Macron a d'abord voulu montrer tout simplement qu'il était dans son rôle constitutionnel. Il est par définition, par la Constitution, le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Donc, vu la montée des tensions, le chef de l'État a estimé qu'il était grand temps de calmer le jeu, de clore le débat, en tout cas d'essayer de fermer cette séquence. Mais ce n'est pas tout, effectivement. En saisissant rapidement le CSM, Emmanuel Macron veut montrer également qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il n'a aucune responsabilité dans l'affaire Fillon et dans tout ce qui a bien pu se passer. Autrement dit, le président Macron a besoin de l'avis que doit rendre le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il soit confirmé qu'il n'y est pour rien, pour qu'il soit réaffirmé le bien fondé, la légitimité de son élection présidentielle en 2017, ce qui est évidemment très important quand une partie de plus en plus conséquente de l'électorat du chef de l'État se situe à droite de l'échiquier politique. Donc vous l'aurez compris, il était urgent d'agir pour Emmanuel Macron pour faire taire tout soupçon d'insincérité sur son élection.
Karine Bécart, en rappelant qu'Éliane Houlet a dit regretter ses propos qui auraient été déformés ou mal compris, Monsieur Fillon n'a pas été mis en examen à la demande du pouvoir exécutif, a précisé l'ancienne procureure, mais un peu tard. En bref, la semaine de travail de 28 heures ne fait plus partie des propositions de la Convention citoyenne, c'était l'une des mesures les plus controversées. Les 150 Français tirés au sort pour cette Convention sur le climat finissent aujourd'hui de voter sur leurs propositions. Le 110 km/h sur autoroute, également très débattu, a bien été adopté. En revanche, donc, la semaine à 28h a été retoquée ce matin par une majorité de votants. Ce pourrait être la seule des 150 propositions à ne pas être adoptée. L'ensemble du texte sera remis demain au gouvernement et le président de la République dira dans une semaine ce qu'il en retient. C'est une urgence parmi les urgences. Après 3 mois d'interruption liée à l'épidémie, les ONG reprennent leurs opérations de secours des migrants en mer Méditerranée. Le navire Ocean Viking, notamment, devrait larguer les amarres demain ou lundi, l'occasion d'évoquer en cette journée mondiale des réfugiés le sort de ceux qui ont été un peu beaucoup, même les oubliés de cette période. Bonjour Sophie Beau.
Bonjour.
Co-fondatrice et directrice de l'association SOS Méditerranée qui fait d'ailleurs ses 5 ans aujourd'hui, jour pour jour. Alors l'Ocean Viking devait reprendre la mer aujourd'hui, les conditions météo ne l'ont pas permis, mais plus de temps à perdre après 3 mois à quai évidemment.
Et oui, effectivement, il y a une urgence en mer Méditerranée qui continue et qui, en fait, n'a jamais cessé malgré la pandémie. Il y a eu beaucoup de départs, en fait, sur cet axe migratoire de Méditerranée centrale qui, je le rappelle, est toujours aujourd'hui l'axe migratoire le plus mortel au monde. Donc, il y a évidemment urgence à repartir en mer parce qu'il n'y avait plus aucun navire de sauvetage. Donc là, les premiers navires sont repartis il y a quelques semaines et nous reprenons aussi le chemin de cette zone de détresse au large des côtes libyennes, dans les eaux internationales.
Quand vous dites qu'il n'y avait plus de sauvetage, les gardes-côtes étaient restés à leur poste?
Alors, depuis juin 2018, ce sont les gardes-côtes libyens qui sont censés coordonner les sauvetages dans cette grande zone de détresse. Malheureusement, ils sont défaillants, ils n'assurent pas cette coordination qui leur est dévolue, qui a été en fait retransférée par les gardes-côtes italiens depuis 2018. On a très très peu d'informations sur ce qui se passe et c'est le chaos le plus total en fait. Il y a des interceptions effectivement par les gardes-côtes libyens, mais les personnes sont renvoyées en Libye, ce qui est totalement illégal au regard du droit international parce que c'est un pays en pleine crise, en pleine guerre civile et dans lequel les migrants et les réfugiés sont soumis aux pires exactions avec des réseaux de traite humaine qui fleurissent. Donc les personnes continuent à prendre la mer, même au péril de leur vie en fait, pour fuir cet enfer libyen. Donc il n'y a pas de dispositif de sauvetage, toujours pas malheureusement, mis en place par les États européens qui sont toujours défaillants sur ce point.
Et oui, et puis après le sauvetage, qu'est-ce qui se passe? Où les migrants sont-ils accueillis? Puisque les Européens, vous en parliez, n'ont toujours pas non plus trouvé le mécanisme de solidarité adéquat.
Alors en fait, ce mécanisme avait commencé à se mettre en place depuis le mois de septembre dernier avec un préaccord qui avait été passé à La Valette, à Malte, avec quelques États volontaires, dont la France et l'Allemagne, et quelques autres, le Portugal, l'Irlande, le Luxembourg, qui se répartissaient les migrants, les rescapés de ces sauvetages, pour que les pays de première ligne, qui sont l'Italie et Malte, ne restent pas seuls en première ligne. On a vu ce que ça a donné dans le passé, hein, malheureusement. Ce n'est pas tenable pour ces pays de première ligne d'être seul à accueillir toutes les personnes rescapées. Ce mécanisme a été totalement figé pendant la période de crise sanitaire. Les frontières ont été fermées, les ports ont été fermés, donc il n'y avait plus du tout de relocalisation des personnes rescapées. Il semblerait aujourd'hui que cela se remette en place.
Et c'est vraiment ce qu'on doit être discuté.
C'est ça qui vraiment se profile. Mmh. C'est une remise en place de ces accords et j'espère vraiment que ça va être le cas parce que nous allons avoir des sauvetages. On sait bien que chaque printemps-été, il y a des retours en mer qui sont plus importants parce que les conditions météo le permettent. Il va y avoir des personnes à secourir et il va y avoir des personnes à débarquer dans un lieu sûr en respect du droit maritime international.
Et en plus, Sophie Beau, le protocole sanitaire ne va sans doute pas faciliter les choses. Comment faire sur le bateau avec les naufragés que vous récupérerez?
Alors tout d'abord, on a fait très très attention à ne pas embarquer le Covid-19 avec notre équipage à bord. Donc les 22 membres de l'équipe de SOS Méditerranée, marins sauveteurs et équipe médicale, ainsi que l'équipage du navire ont dû se soumettre à une quatorzaine préventive très stricte d'isolement. Ensuite, à bord, nous avons mis en place des protocoles de circulation, tout ce qui concerne les équipements de protection, bien sûr, les masques, et puis nous allons essayer de faire respecter les distances sociales et physiques. Mais malheureusement, dans la limite du possible sur un bateau de 70 mètres, c'est pas évident. Mais bien sûr, ce sera une priorité de pouvoir essayer de se préserver d'une épidémie à bord du navire. Vous savez que c'est catastrophique quand le Covid s'invite à bord d'un bateau.
Évidemment. Donc, en rappelant que depuis 4 ans, l'Aquarius puis l'Ocean Viking, ce sont plus de 30 000 migrants qui ont été récupérés et sauvés en mer. Merci beaucoup Sophie Beau, directrice de l'association SOS Méditerranée. À l'étranger, plus d'un million de cas au Brésil, où la barre des 50 000 morts devrait être dépassée ce week-end. L'épidémie continue de progresser dans toute l'Amérique du Sud, comme au Moyen-Orient, comme en Asie du Sud. En Inde, le gouvernement fédéral essaie aujourd'hui de faire face à la multiplication des contaminations en imposant désormais une quarantaine de 5 jours à tous les habitants de New Delhi qui seront testés positifs. Une mesure qui sera évidemment très difficile à appliquer. Sébastien Farsi nous appelle de New Delhi.
5 jours dans un hôpital ou un centre d'isolement pour tout habitant de New Delhi testé positif au Covid-19, même asymptomatique. La mesure est extrême, mais le gouvernement fédéral estime que les quarantaines à la maison ne sont pas bien respectées, ce qui entraînerait la propagation du virus à New Delhi. Le gouvernement régional, dirigé par un parti d'opposition, s'oppose à cette mesure jugée irréaliste. La capitale enregistre en effet plus de 3000 nouveaux cas quotidiens. Si toutes ces personnes doivent être hospitalisées, New Delhi n'aura plus de lits au bout de 3 jours. Or, la capitale s'attend à voir le nombre de ces cas multiplié par 10 en 6 semaines et les autorités sont déjà en train de convertir tous les centres de conférences, hôtels ou wagons de train en hôpitaux de fortune pour affronter ce possible raz-de-marée. New Delhi affirme du reste que cette mesure découragera les malades à venir se faire tester de peur d'être internés pendant 5 jours. À la fin, c'est le gouvernement fédéral qui aura le dernier mot. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
Et pendant ce temps, on l'a vu, le déconfinement se poursuit dans de nombreux pays, comme en Europe, ce qui fait dire à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, que le monde est entré dans une phase dangereuse. En bref, manif interdite à Dijon ce week-end après les violences intercommunautaires du début de semaine. Le centre-ville et les places principales de la ville seront placées sous surveillance. 2 compagnies de CRS sont à nouveau mobilisées pour éviter les rassemblements. Une journée de recueillement au Havre ce samedi. Les dockers ont prévu de rendre hommage aux militants CGT retrouvés sur un parking de Montivilliers il y a plus d'une semaine. Mis en examen dans une affaire de stupéfiants il y a bientôt 2 ans, il avait été placé sous contrôle judiciaire. Une enquête a été ouverte jeudi pour arrestation, enlèvement, suivi de mort en bande organisée. Tous les dockers de France sont appelés à cesser le travail. Autre mouvement social dans les magasins de l'enseigne La Halle, dont les salariés sont également appelés à cesser le travail. Ils étaient 600 à manifester ce matin à Châteauroux, où 500 postes pourraient être supprimés dans 2 plateformes logistiques. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire. Plus de 2000 salariés au total sur 5000 pourraient se retrouver sur le carreau. Les repreneurs ont jusqu'à mercredi pour revoir leur dossier. Et puis plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées tout à l'heure devant la préfecture de Foix en Ariège en soutien aux ours des Pyrénées. Réaction à la mort d'un ours de 4 ans tué par arme à feu le 9 juin dernier près de la station de ski de Guzet. À 1800 mètres. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté l'interdiction de manifester prononcée par la préfète. Un ours en peluche a donc été déposé ce matin devant les grilles de la préfecture en défense de cet animal qui, pour les défenseurs de l'environnement, a parfaitement sa place dans les Pyrénées, à côté des éleveurs. Et c'est ce que rappelle Alain Rennes, le responsable de l'association Pays de l'Ours à Daix. Il est au téléphone de Jules Dequisse.
Les moyens de cohabiter entre des troupeaux domestiques et des prédateurs sont au nombre de 3. C'est la présence permanente d'un berger, c'est le regroupement nocturne, donc chaque soir, de l'ensemble du troupeau, et c'est la protection de ce troupeau avec des clôtures et des chiens de protection, les montagnes des Pyrénées, les patous, hein, ces grands chiens blancs, celui de Belle et Sébastien, et c'est un moyen qui est à la fois peu cher, efficace, et qui ne présente pas de risque de dérapage. On voit bien là que à autoriser les personnes à avoir des armes et à les orienter contre l'ours, fût-elle avec des balles en caoutchouc, eh bien, ça a manifestement laissé penser à quelqu'un qui pouvait orienter une arme avec des vraies balles contre un ours. Donc on voit bien les risques de dérive et que ces techniques sont absolument inutiles et en plus illégales. Nous les avons dénoncées, nous attendons un jugement du Conseil d'État à ce sujet. Il y a par ailleurs des moyens qui, encore une fois, ne présentent pas de risques, qui sont pas chers et qui sont efficaces. Et on ne comprend pas pourquoi on n'impose pas l'utilisation de ces moyens.
Tout finit toujours en musique, ou devrait, spécialement ce week-end avec demain la fête du même nom. Et ce samedi, le D-Day, ou Disquaire Day, la journée des fans de vinyle, habituellement programmée en avril, elle avait été finalement reportée. 200 rééditions, raretés ou collectors sont disponibles chez une cinquantaine de disquaires indépendants dans tout le pays, avec aussi des nouveautés, une cinquantaine au total, dont celle que propose le collectif Salmon, Kidusai, Chikipé et Camille Bazbaz, un 45 tours inédit.
Now that groove that you're moving to, when it's yours that you feel, that sound you're hearing now, well, oh, it's what you feel, talking to you, talking to you, and if you listen, answering you. I hope it's good, it's good, it's good. Oh, yeah, yeah, yeah.
The Long Road, l'un des deux titres de ce 45 tours du collectif The Salmon, la passion des vinyles. C'est aussi la passion des pochettes d'autrefois dont certaines sont mythiques. Et c'est à voir, pour réviser un peu, à voir sur franceinter.fr. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski.
Malgré un risque d'averse et parfois d'orage sur les Alpes et sur les Pyrénées, le soleil va s'imposer sur les régions méridionales avec 25 degrés cet après-midi à Lyon, Bordeaux et Bastia, 27 à Toulon, Toulouse et Montélimar, 30 degrés sur le Gard, le Languedoc et le Roussillon. Mais en Andanax, Bordeaux-Lyon, le ciel est plus mitigé, ponctué d'ondées plus fréquentes et parfois orageuses cet après-midi dans le quart nord-est, avec une vingtaine de degrés prévus le long de la Manche, 22 à 24 sur les autres régions. Ce soir, l'ambiance va devenir maussade sur la Bretagne, des pluies faibles qui vont traverser demain une grande partie du pays, en épargnant toutefois les régions du sud et de l'est. Lundi, le ciel sera plus encombré au sud qu'au nord, avant l'installation du plein soleil et de fortes chaleurs sur l'ensemble du pays au cours de la semaine.